إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا مع استدلال ابن القيم بسورة العصر في بيان أهمية العلم، حيث قال قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربع، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. ابن القيم لا سيتي سورة العصر dans le sens de montrer l'importance de la science. Il a jugé par l'Asr dans le tafsir, c'est le fait de juger par le temps. Parce que le temps, il a son importance. Et la personnalité qu'on a, c'est le résultat de l'utilisation de notre temps. Hein? La personnalité qu'on a, ce qu'on a conscience, ce qu'on est, c'est le résultat de là où on a investi notre temps. Hein? Si on l'a investi dans des bonnes choses, on était des gens de bien. Si on investit dans des choses qui sont pas dans des mauvaises choses, c'est l'inverse. Et si on voit ce qu'on a, ça a été dans nos mémoires, ce qu'on retient du passage des jours, des jours et des semaines et des mois, on ne trouve dans la plupart d'entre nous que des informations qui ne sont pas très utiles dans la bonne pratique de l'adoration, que des informations d'ordre général, peut-être que des films, peut-être que des matchs. Je veux dire, l'insane, des fois, il exagère dans le fait de gaspiller son temps alors que c'est quelque chose de très précieux. Des fois, on se laisse aller. Il y a des périodes où on fait des efforts dans le cadre de notre religion. Le problème, c'est d'essayer de se maintenir dans un bon rythme dans le temps. Hein? On arrive à une année où on échoue sur des questions, sur des lectures, sur le fait d'écouter des durus, d'essayer de suivre les ulama, des choses. On avance dans le fiqh, de comprendre l'aqida, de comprendre les différentes choses importantes dans notre religion. Et il arrive un moment où on se relâche et on gaspille notre temps, ce qui est déplorable. Et plus cette nation donne, met son temps là où il faut, plus Allah Azza wa Jalla fait l'Izzah à cette nation. Il donne l'Izzah à cette nation. Plus l'ensemble de notre nation. Plus cette nation elle donne de l'importance à cette religion, plus on est on sera à la hauteur. Beaucoup de ceux qui n'ont pas une bonne vision de la situation dans laquelle est notre nation et la réalité dans laquelle ils vivent, Il te dit jusqu'à quand vous nous dites il faudrait qu'on patiente dans l'apprentissage de la science, qu'on patiente dans l'apprentissage de notre apprentissage. Il faudrait que on soit patient dans cela. Il faudrait qu'on puisse éduquer ceux qui sont autour de nous. Il faudrait que la nation musulmane puisse éviter ce qu'elle a reçu comme faux héritage lié à la religion, hein, qu'elle prenne, qu'elle revienne à ses sources et qu'elle s'éduque sur ce qu'elle a hérité, ce qui est réellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À بعض الناس يقول لك يعني تضلوا تقولون يعني نتعلموا ونتربوا وندعيوا يعني حتى الى اي وقت jusqu'à quand et c'est يعني de te mettre devant un fait accompli comme quoi le fait qu'on apprend que certains d'entre nous essaient de bien pratiquer leur religion بعضنا يحاول كيفاش يجتهد في تطبيق الدين il essaie de montrer que ça c'est une image qui est stationnaire qui n'avance pas. Il te dit jusqu'à quand? On n'est pas en train de proposer une solution qui est pratique pour cette nation. Et ça, c'est complètement faux. Cette nation, elle a son importance par rapport à l'importance qu'elle donne à sa religion. Par rapport à là où elle investit son temps. Le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et on n'a qu'à voir autour de nous certains signes qui montrent le niveau dans lequel on est et le niveau de force ou de faiblesse dans lequel on est dans notre communauté. Et ça, on a autour de nous, on a qu'à la réaction qu'on a vis-à-vis d'un match de football peut être plus importante que tous les symboles qui sont liés à notre religion. On a vu deux nations peut-être s'affronter à cause d'un match de football. Remettre en cause les sens de cet inversé. Le fait que l'Azza wa Jalla a dit que le mu'minun innama al-mu'minuna ikhwa. Alors le fait que à cause d'un match de football, c'est notre situation, c'est la réalité dans laquelle on est en train de vivre. Et ceux qui te posent des questions te disent oui, les gouvernements, faut qu'on change, il faut essayer de trouver des solutions miracles ou des solutions rapides, comme ils disent, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a tracé le droit chemin, il a tracé un grand trait, un trait qui était en dimension importante. Et devant ce trait, il a tracé des petits traits. Et il a dit wa nahda sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u. Les autres chemins, ils ont toujours cette ambition que c'est très court. Les gens, ils viennent, ils essaient de proposer une solution qui ne marche pas avec, selon la Azza wa Jal, dans ce qui est des changements. Rasulallah, il a fait que la sunna, le chemin de la sunna, il est lent. Mais il donne ses résultats dans le temps, et c'est celui-là qui est efficace et réel. Le fait que cette sunna, elle passe de l'échelle individuelle à une échelle familiale, à une échelle communautaire, c'est là la vérité. Et ça, on peut le voir et on peut, j'allais dire, le tester par rapport à d'autres phénomènes qu'on voit dans notre société. Lorsqu'on était dans les années 80 en Algérie, le fait de ne pas serrer la main à une femme, c'était quelque chose de détonnant. Ça détonnait et c'était étonnant. Autour de vous, si tu ne serres pas la main à ta cousine, qu'est-ce que c'est que cette religion? D'où tu nous sors? Tellement on s'est éloigné de notre religion. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il vaut mieux être percé par une grande aiguille dans sa tête que de toucher une femme, tu n'as pas le droit de toucher. Bon, je ne sais pas trop bien choisi l'exemple par rapport à la France. On est bien entouré. Mais je dis ça dans le sens que, 10 ans après, à un certain moment, quand elle a commencé, dans le sens où les gens ils ont commencé à voir ces sunnas, c'était étrange, etc. Disons, après, c'est devenu quelque chose de normal. Quand ils voyaient quelqu'un qui avait l'apparence comme ça, avec une petite barbe, salam de loin, etc. Pourquoi ? Il y a une évolution dans les choses. Le fait de faire un effort, de propager Dawa, ça donne un temps et ça donne un résultat. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous garantit ce résultat et on n'a pas à se presser. Dans cela, on a à faire ce qu'on a à faire. L'adoration qu'on a à faire dans le cas où les musulmans sont forts, elle est connue. L'adoration qu'on a à faire quand les musulmans sont faibles, on pratique. Et quel que soit l'état dans lequel, l'étape dans laquelle on passe, yani, par rapport à notre vie, par rapport à la position de la nation, hein, dans le sens qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible, on a une adoration à faire. Et donc, le fait est tel qu'il faudrait bien comprendre notre religion et bien comprendre les réalités dans lesquelles on est en train de vivre. Et ça, c'est deux choses essentielles qui permettent tout un chacun d'être lucide sur le chemin sur lequel il marche. Ad'u ila Allahi ala basirati. Je marche, c'est une clarté. Le droit chemin, c'est un chemin qui est éclairé. Et il est éclairé par la lumière de la science. Un saint image, il a une bonne vision de ce qui l'entoure, et il a aussi une bonne compréhension de la religion, et il sait pratiquer l'un et l'autre. On ne peut pas pratiquer des textes qui sont venus dans le sens où l'islam il était fort, dans un contexte où on est faible. Et l'inverse, le fait de bien comprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'important. Et tous ceux qui sont autour de nous, pas de politique, qui commencent autour de raisonner, des raisonnements, soi-disant de haut niveau, c'est un bas niveau, qui n'est pas lié le shara. C'est comme si qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas laissé la façon avec laquelle on devrait revenir à notre force aujourd'hui à partir des textes, l'analyse qu'ils font. Ils parlent géopolitique ou je sais pas, des trucs qui sont pas les vraies raisons ni de la faiblesse de cette nation. Et là, quand il a dit wala rasulillahi uswatun hasana, c'est-à-dire qu'on devrait trouver dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il nous faut comme position à prendre dans le cas où la nation elle est forte et dans le cas où la nation elle est faible. Quand il était à la Mecque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était fort ou il était faible? La nation musulmane, elle était faible. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Donc la nation musulmane était faible, il y avait certaines règles qui étaient pratiquées surtout dans le da'wa. Quand il a commencé, il a fait Dawa 3 ans, les 3 premières années, les 13 ans qu'il était à la Mecque, les 3 premières années, c'était une Dawa secrète. Il ne parlait qu'à ceux qui étaient très proches et qu'à ceux où il était presque sûr qu'ils allaient accepter ça, sa Dawa. Sa femme Khadija, j'ai entendu quelque chose. Abu Bakr Siddiq, son esclave Zayd, le mutabanna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Donc, et après les gens ils ont commencé à entendre qu'il y a une da'wa. Dès qu'il est arrivé, dès qu'Allah Azza wa Jalla a dit fasda' bima tu'mar, d'une façon pas secrète, c'est-à-dire l'inverse, ouvertement, voilà. Donc il est monté sur Safa, sur un monticule du Safa, et donc il voyait le côté, il voyait un côté que Quraysh ne voyait pas. Il a donné l'alerte, Safa. Et donc les gens se sont rassemblés, et donc lui il était sur le monticule, sur le Safa, il voyait un côté que le Quraysh qui était rassemblé ne voyait pas. إيه اللي رديع رأيتمه وأني أخبرتكم بأن فعلا بالوادي جاء التغيير عليكم هل تصدقوني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أخبرتكم أن هناك une tribu qui est en train de s'approcher pour venir vous exterminer, ou est-ce que vous allez me croire ?» Et là-dessus, Quraysh, de façon unanime, elle lui a dit: « Ma jarabna alayka kadib » Dans toute ta vie, on n'a pas eu d'exemple où t'as menti, donc on te croit. « Fa alfa inni nadirun lakum bayni yaday adabin shadid » Si vous me croyez contre un danger de la dunya, hein, vous me croyez dans ça, je vous préviens de quelque chose qui est encore plus grave, qui est le danger de l'akhira. Et donc il les a laissés attester qu'il n'a jamais menti, que c'était lui l'amin, hein, parce que c'est l'essence même du fait d'accepter le wahid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. On croit au prophète, on sait très bien que les axes de la foi, les six axes de la foi, Iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli, wa limul akhir wa qadar khairi wa shari, c'est quelque chose qui appartient au monde de l'invisible. Le fait de croire au prophète, certains te disent oui, mais on a vu. Le prophète a été vu, c'est quelqu'un qui était vivant. Et donc, comment se fait-il que ça fait partie de l'imam al-ghaib, l'imam de l'invisible? Oui, ce qui est invisible dans le fait de croire au prophète, c'est le fait de croire qu'il a reçu la révélation. Cette révélation, elle vient effectivement d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça le fait que Quraysh, lorsqu'elle a attesté du fait que le prophète n'a jamais menti, que c'était lui l'amin, celui le... en français, c'est quoi l'amin? Le digne de confiance. Celui qui était digne de confiance, qui n'a jamais menti, qui était Quraysh, malgré le fait qu'elle n'était pas d'accord avec lui, qu'il ne voulait pas le suivre, mais quand il voulait laisser un dépôt, il le laissait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, c'est le fait de croire à cet invisible, le fait qu'il y avait la révélation qui descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens ne voyaient pas. Hein, ceux qui étaient autour du prophète, ils voyaient le prophète s'évanouir, ou être dans certains états qui sont bien explicités dans Sahih al-Bukhari, hein, quand il a commencé, il a bien commencé par Bid' al-Wahi, parce que ça c'est très important. Toute la charia elle est venue à travers le Wahi. Et donc l'imam Bukhari il a commencé son livre dans ce sens-là pour montrer l'importance des qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était la garantie que ce qu'il nous disait était vrai. Et donc dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait dit ça à Quraysh, il y avait ce qui lui a dit Ibn Lakali Hada Jama'atana, Abu Lahab. Et donc, le fait est tel qu'on voit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la deuxième période qui a duré plus de 10 ans, le fait de montrer Dawa Jahran avec le fait de patienter. De patienter des difficultés qu'il y avait dans le fait de montrer Dawa ouvertement lorsque cette nation elle est minoritaire. Et la patience, elle a joué un rôle aussi important. Et les sahaba, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, jusqu'à quand on patiente, hein, on est sur la vérité, et ils sont en train de torturer les faibles à la Mecque. Il leur a dit, ceux qui étaient avant vous, ils prenaient des gens, ils les découpaient en deux, avec un... Un char en français, c'est une grande scie. Hein. Il le divisait en deux, hein, avec une scie. Et ça ne le faisait pas revenir sur sa religion. Les gens, ils ont souffert pour cette religion. Ce qu'on a connu dans l'humanité, il y en a qui ont souffert, ou qui souffrent, ou qui acceptent de prendre des risques pour des fausses causes, pour des causes qui sont fausses. Alors, toi qui es sur la vérité, pourquoi te plaindre? Et après, il y a eu le fait de l'Hijra vers Médine, la première communauté musulmane qui a connu Dawr al-Islam, la première, c'était une doula qui a été construite sans qu'il y ait une goutte de sang. Donc, ceux qui viennent nous dire Oui, cette vérité, on ne peut pas l'avoir. Cette douleur islamique, on ne peut pas l'avoir sans qu'il y ait que le sang qui coule. C'est pas vrai. Il ne faut pas rentrer dans le raisonnement parce que ça, ça montre qu'ils n'ont pas eu fiqh. Yani, ils n'ont pas étudié la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la première communauté qu'a connue le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui était Médine, il n'y a pas eu une goutte de sang. Yani, dans le sens qu'il n'y a pas eu de tuerie. Le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a été à Médine par la force de la vérité, par la force de Dawa. Et ça a donné des résultats. Après, c'était la phase où Dawal était sur la défensive. Et après l'an 6 ou 7, ça a commencé la phase qui était offensive. Et tout était basé sur le fait que durant la période où les musulmans ils sont faibles, il y avait le fait de patienter. Hein, le fait d'être des bons exemples, de faire d'avoir comme il faut. Et cette période, elle est longue, elle est par rapport à aux périodes où les musulmans, ils ont disposé, ils sont devenus une nation, où le djihad, il était là, c'est-à-dire la nation musulmane, quand elle est là, on rentre dans l'ahkam al-djihad, parce que le djihad ne peut pas s'exercer s'il n'y a pas une nation, s'il n'y a pas un émir, s'il n'y a pas une nation musulmane forte, qui est capable de prendre des décisions pour que Dawah se propage. Hein, comme les États-Unis, aujourd'hui, c'est une nation qui est forte et qui a défini ses axes de mal. Le jour où la nation musulmane deviendra forte, elle définira ses axes de mal. Ça, les notions du djihad, les notions de propager cette vérité, quand on rentre dans la question de définir le c'est quoi le djihad, etc., il y en a, ils pensent, c'est pas le fait de prendre une âme et d'aller tuer tous ceux qui, c'est pas comme ça, c'est pas des définitions. Il faudrait bien comprendre, chaque domaine dans notre religion, il y en a qui rentrent dans ce domaine-là et qui parlent de ce domaine-là alors qu'ils n'ont pas les mains. Dieu nous parle de djihad alors qu'il n'y a pas l'essentiel dans la nation. On n'est pas encore des nations musulmanes qui soient assez fortes pour pouvoir faire face à ses ennemis ou pour pouvoir imposer la vérité qu'elle porte, etc. Et ça, il y en a qui parlent de djihad, qui vivent fibrés de koufar, etc. Ils parlent. C'est-à-dire, c'était pas dans ton contexte. Alors, le sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité Ahkam Jihad, ne sont pas descendus, j'allais dire, à la Mecque, où les musulmans, ils étaient faibles. Parce que c'était pas ces Ahkam qui pouvaient pas pratiquer de ce temps-là. Et aujourd'hui, les musulmans, ils sont faibles, ils savent très bien qu'ils peuvent pas pratiquer certaines choses. Mais ils rentrent dans ces domaines, et avec des faux raisonnements, Shaitan, il les pousse, surtout par l'enthousiasme, par l'aveuglement de l'enthousiasme, plus que par la clarté de la science. Et même des fois, juste de la sagesse. Et ceux-là, ils font beaucoup de mal à notre nation, plus que le mal qui peut venir des juifs et des chrétiens et de ceux qui sont. Quand on dit ici, c'est plus parce que le mal qui est intérieur, il est plus grave que le mal qui est extérieur et qu'on voit. Le mal qui est intérieur, on ne le voit pas parce qu'il est intérieur. Et là-dessus, sur l'Asr, l'Asr, j'ai la jury par le temps, il y a une scène de l'Asr, il a la dîner à Manu, il a commencé par citer l'Insan, et ça on a dit c'est Jins l'Insan, où il a parlé de l'Insan dans l'individuel. Après, il est passé au collectif parce que les musulmans sont faits pour vivre collectivement ou individuellement. On est fait pour vivre collectivement, qu'on le veuille ou non. Notre réussite, elle passe par le fait qu'on réussisse à vivre collectivement. Si nous, on n'arrive pas à instaurer les règles de notre religion dans l'endroit qui est censé représenter l'islam, qui est la mosquée, comment veut-on pratiquer ces règles dans un état? Alors on a des difficultés à, je veux dire, vivre entre nous en petite communauté. Et on demande d'essayer de pratiquer Sharia à une échelle communautaire. Et on sait très bien que c'est incohérent. Il faudrait qu'on puisse arriver à donner l'exemple déjà d'une bonne pratique de notre religion à une échelle collective et dans la mosquée. Quand on rentre dans la mosquée, on entend plein de plein d'histoires, et plein de divergences, et des fois pire que ça. Et ça, ça montre la faiblesse dans laquelle on est. On n'est pas les cœurs quand on vient à la mosquée. C'est pas des cœurs qui convergent vers un même chemin. Hein, on est peut-être, on se met debout dans la prière, mais on a nos cœurs qui divergent. Hein, il n'y a pas de mahabba qu'Allah Azza wa Jal il a cité. Hein, وألف بين قلوبهم هذه التأليف بين القلوب الله عز وجل في descendre parce que cette nation elle est sincère dans sa bonne pratique de la religion et il a dit الله عز وجل وأنفقت ما في الأرض جميعا ألفت بين قلوبهم. Ça c'est quelque chose de précieux pour la nation, le fait qu'il y ait cet amour entre les musulmans qui est basé sur la foi, hein. Et donc, on devrait faire un effort dans le sens d'être collectif, salat al-jama'a, le fait de faire la prière en groupe, et de patienter dans cela, parce que peut-être que, lorsqu'on vient à la mosquée, il y a des gens où, quand on les voit, ou quand on les rencontre, nos cœurs se rencontrent, et il y a des gens, lorsqu'on les voit, nos cœurs se fouillent, hein, alors, nous faisons, je nous donne mon jannada, je me ta'arafa mina atalaf, mais on devrait patienter, parce que dans cette patience, l'Azogène nous donne l'Azogène. Hein, le fait de. Et les bienfaits qu'il y a que cette communauté. Les musulmans vivent en communauté, les bienfaits qu'il y a dans cela sont bien plus que les méfaits qui peuvent y exister. Et donc, l'Azogène dit cette surah, il est le dîner amanou, amilou salihat. L'imam, il a besoin de science. Ibn al-Qayyim, il dit que ce verset-là. Là, il parle de science. Ma'rifat al-haq, ladin amanu wa amilu salihat, c'est le fruit de la science. Le fruit de la science, c'est la pratiquer. Si tu ne la pratiques pas, c'est un poids pour toi. C'est un poids, c'est quelque chose qui est contre toi. Hein, la science, et pour toi, tant que tu la pratiques. Ma'amilu salihat wa tawasaw bil-haq. Et donc, cette religion n'est pas une religion qui est un titre qui est individuel. C'est une scène, il fait un effort pour lui, il ne fait aucun effort pour propager. Faites discuter, d'essayer de porter da'wah vers les autres, c'est quelque chose peut-être de pénible, mais il est nécessaire dans da'wah. L'insane, il a toujours tendance à se dire, pourquoi je me casse la tête à essayer d'expliquer à un tel, ou essayer de montrer, de convaincre un tel d'une sunnah ou d'un chemin. Et en essayer, ça demande des efforts. Et c'est l'Azza wa Jalla nous a demandé de faire cet effort-là, parce que la réussite dans cette nation, c'est de bien transmettre cette vérité, qu'il y ait des gens qui l'apprennent, qui donne le bon exemple et qui puisse la propager. En groupe, bien sûr, le sabr, il est nécessaire. Le sabr, c'est quelque chose de nécessaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris cette vérité, qui l'a propagée comme ça, avec des fleurs ou des gens qui tout le monde est d'accord, etc. On a toujours des gens qui sont contre. Et on fait les actions qu'on fait, on les fait pour Allah Azza wa Jal. Si les gens ils sont contents, tant mieux. Si les gens ils sont contre toi, tu fais tes choses pour Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la sincérité dans da'wah, c'est quelque chose qui est, comme Boulou Aziz, en français, précieux, c'est pas. Hein? Cher, oui, c'est la sincérité. Hein, comme a dit un des imams, Salaf Salah, il a dit, mais j'ai pas trouvé quelque chose de plus difficile quand on se c'est que dans le sens de sahniya, yani, donc le fait d'être sincère. Ça, c'est difficile, le fait de dire qu'on est sincère, ça veut dire que quand tu es dans da'wah, que la mosquée soit pleine ou qu'elle soit vide, tu fais ton effort. Et ça n'influe pas sur ton effort. Et vois ton cœur dans cela. C'est pas la même chose, yani, quand tu vois, quand t'as une grande, beaucoup de gens qui suivent, etc., tu te sens dans un contexte autre que le contexte où il y a peu. Mais toi, tu as à faire ton effort le même, qu'il y a peu de gens ou lorsqu'il y a beaucoup. Tu as, même s'il y a un qui écoute, tu fais autant d'efforts avec lui que lorsqu'il y a beaucoup. À partir du moment où il y a un qui écoute, il faudrait, et ça c'est parce que il faudrait faire attention au grand piège de la célébrité, Habou Douhour, et les ulama ils disent Habou Douhour et Xerou Douhour. Le fait de vouloir se montrer, c'est quelque chose que Nefs aime. Elle aime la célébrité, elle aime être... Et ça c'est dangereux, surtout dans notre contexte, parce que comme il y a peu de ulama parmi nous, l'insan peut-être il va lire un livre ou deux livres, il peut faire une khutbah, etc. Au shaitan, je dis, machallah, toi tu es devenu... Et ça, il rentre le shuhra, le fait... ça, donc Niyata'o, qui était peut-être au début pour Allah Azza wa Jal, peut se tourner vers le fait qu'il aime, le madh ta'a nas, le fait que les gens ils font l'éloge, le shuhra, etc. Et des fois, il s'oublie dans le sens de contrôler sa niya. Le Niyata'a nas, c'est quelque chose, le qulub, elle change, le cœur. Et donc, on a tout le temps, il faudrait qu'on fasse attention, hein, à nos cœurs et à nos intentions, est-ce qu'on assure la sincérité dans nos actions, hein? Est-ce qu'on assure le fait que l'action là qu'on fait, on le fait pour Allah Azza wa Jal, et les deux conditions pour que Allah Azza wa Jal accepte nos actions, il faudrait la sincérité, le tawhid Allah Azza wa Jal. Ah, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela c'est valable partout. Et ici en France, c'est une fitna. Quand il n'y a pas les ulama, c'est ce qu'on appelle un milieu risqué. On n'est pas dans un milieu où il y a des savants. Donc, je dis, n'importe qui peut parler n'importe quoi. Je dis, on peut entendre tout. Sinon, il n'y aurait pas l'Ahbash, il n'y aurait pas Shia. Et les gens ils disent des bêtises. Mais tant qu'il n'y a pas les ulama qui sont eux, qui contrôlent le flux de l'information, qui sortent la science, etc., qui remettent les gens sur le droit chemin, tu peux entendre tout. Et il y a certains, ils montent sur le mimbar, où ils deviennent célèbres alors qu'ils n'ont rien à voir avec la religion. Alors qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Alors que c'est dangereux pour eux parce que la foi qu'ils ont et ce qu'ils sont en train de faire, ils risquent de tomber dans la fitna de Hubb al-Duhur et Niyah, elle peut changer. De fait que tu es en train de combattre pour le sunna et pour Allah Azza wa Jal, vers le fait que tu essaies de combattre pour être célèbre et pour être pour que tu aies le plus de gens autour de toi, etc. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. C'est pour ça, talib al-ilm, quand il commence, c'est talib al-ilm. Talib al-ilm, c'est du shuhr pour qu'on apprenne d'eux et qu'on voit dans leur comportement les choses qu'on ne voit pas à travers les livres. Le Hassan al-Simt, le fait qu'il te fait étudier, de faire attention. Le tour, etc. On voit le niveau dans lequel ils sont, le comportement qu'ils ont, l'ikhlas qui apparaît dans leurs actions. Ça, c'est important pour nous, pour qu'on le comprenne. Nous, on a, beaucoup d'entre nous, ils ont avancé dans le din sans exemple, sans qu'ils aient beaucoup de contact avec les savants. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Sans qu'on voit la réalité de ce qui se passe. Et, je veux dire, on voit les histoires qu'il y a, les dégâts qu'il y a eu, et là-dessus, ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un manque de sincérité, un manque de bonne formation, un manque de bonne compréhension du chemin sur lequel on a à suivre. Il y en a, ici des règles. Et après, quand il s'agit de pratiquer ces règles, il ne les pratique pas comme il faut. Donc, contredire Imam Malik dans le fiqh, alors que c'est sa plus grande sincérité, ça ne nous pose pas de problème. Mais le chef, lui, qui l'aime, il a raison sur tout. C'est devenu tasse. Mais tu dis, il ne faut pas. Il faut suivre le haq. Hein? Il ne faut pas suivre le rijal. Mais dans sa pratique, dans la pratique, il se met quelqu'un, un chef qui l'aime bien, et voilà, ce chef, il a raison dans tout. Moi, mashallah, j'ai eu ma formation, j'ai bien aimé. Cheikh Al-Albani, j'allais dire qu'il était aux années 80 en Algérie, c'est ce qu'on écoutait le plus. Hein? Et donc, tous les fatwas qu'il donne, je vais les prendre, et tous ceux qui le contredisent, je ne vais pas écouter. Ça c'est faux. Ça c'est du ta'assoum. Nous on suit les ulama, mais on ne fait pas de. On n'entre pas dans le cadre de. Il faut qu'on pratique ces règles. Et là, Azza wa Jal, il nous éprouve dans cela. Il ne s'agit pas de dire, voilà, il ne faut pas suivre les hommes, il faut suivre l'haq, etc. Et après, tu penses que Azza wa Jal va te laisser comme ça. Il ne va pas t'éprouver dans cela. Et là-dessus, il faut qu'on soit sincère dans le suivi. Et n'aie pas peur des autres, rien. Tu fais ton action pour Allah Azza wa Jal. Donc tu suis les règles générales qui sont liées à la da'wa, hein, qui sont inchangeables, hein, c'est des règles qui sont claires. N'aie pas peur. Les gens, ils sont contre toi aujourd'hui. Demain, ils sont obligés de revenir à la vérité parce que la vérité, il n'y a rien qui lui fait face. Après Ibn Qayyim il cite le fait qu'Allah Azza wa Jal il a montré que il a donné cette science à l'élite de ses adorateurs qui sont les anbiya ou rusul, qui sont les prophètes. Et il cite tous les versets qui s'y rattachent, il cite quelques versets qui s'y rattachent, surtout par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla dit وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. À chaque fois, Allah Azza wa Jalla fait le fait qu'il cite le fait qu'il a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam les livres, il lui a fait descendre la révélation, le Coran et la Sunna, le Kitab qui est le Coran, le Hikmah qui est dans certaines interprétations. Le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que cela c'est quelque chose d'important. Si l'Azogi donne ça à l'élite de ses adorateurs, c'est que c'est important. Et lorsqu'il cite l'inverse, ceux qui ne sont pas sur le droit chemin, il les cite surtout avec l'aspect de l'ignorance. Summun bukmun amun fahum la yaqilun. Ils sont comme aveugles, comme. Hein, summun bukmun amun. C'est quoi la traduction? Sourd, muet, machin, t'as des formules. Bien. Sourd, muet et aveugle. Dans le sens qui, alors qu'ils ne sont pas en réalité sourds, muets et aveugles, ils sont sourds, muets et aveugles par le fait de l'ignorance. Et l'inverse, les gens qui sont l'élite, qui sont le prophète, ils ont les caractéristiques qui sont inverses. Ah, on a le verset qui dit Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum. Qui continue le verset? وجعلكم سمعا والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Je ne me souviens pas du. نعم. تشكرون. Hein? C'est le remerciement. نعم. Donc là, Azza wa Jalla, il nous a tous sortis au départ au point zéro. Hein, comment on dit? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Vous ne connaissez rien du tout. Et après, il nous a montré les outils qu'on peut utiliser, ce qu'il nous a donné comme outil aller dans nos corps pour pouvoir acquérir la science. Wa ja'alakum as-sam'a wal absara aw al basara wal absar. Absara ou l'afida, donc il nous allait. Ça, c'est les outils de réception de la science ou l'afida, c'est-à-dire le fait d'entendre, le fait de voir et le fait, l'afida, c'est le fait de raisonner, c'est ça, le cœur. C'est le fait de raisonner. On raisonne par le cœur ou là par le cerveau. Le cœur. C'est des notions qui sont. Donc, din, oui, on raisonne. L'âme, koloubun, là, ifqahoun, bien. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas avec. C'est-à-dire que le sens de la personnalité d'un saint, c'est le cœur. L'islam, l'homme comprend, raisonne avec son cœur. C'est lui qui commande le reste. Et donc, ces trois choses, le fait qu'on démarre de zéro et on utilise ses moyens. Donc, est-ce qu'il y a un autre moyen d'apprentissage autre que cela? Est-ce qu'il y a un autre moyen d'apprentissage? Innama al-ilmu bita'allu. Innama adatu hasr. Le fait d'acquérir la science, c'est avec l'apprentissage. C'est simple. On est tous d'accord. Là, il y a une opposition. On est tous d'accord que le fait d'apprendre, il faudrait. L'ilm, on ne peut l'acquérir qu'à travers l'apprentissage. Ça paraît simple. Mais certains disent que non, la science, on peut l'acquérir à travers l'adoration. C'est-à-dire, quand tu pries beaucoup, quand tu jeûnes beaucoup, la théologie, il te fait descendre la science. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Innama al-ilmu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innama al-ilmu bita'allum. Et les outils avec lesquels on enseigne, c'est le fait d'écouter, d'entendre. Donc, on prend l'ilm comme on prend le salaf salah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des shuyukh, des ulama. Et donc, l'insan qui dit, voilà, qui dit, moi j'étais hier, j'ai vu dans le rêve une science donnée, tu lui dis ça, Ça ne fait pas partie des sources de la science qu'on a. Innam al-ilmu bita'alum. L'insan ne peut pas dormir ignorant et se réveille ingénieur. Hein? C'est pas possible. Certains de tous nous dans les mosquées, ils dorment, là, il vient, il te dit, oui, j'ai vu dans le rêve le prophète, il m'a dit, il m'a donné de... Non, non. Cette science, on l'a par héritage. Donc si jamais quelqu'un vient, il te dit, oui, j'ai vu dans le rêve, le prophète m'a appris, ou il m'a montré quelque chose. C'est fini, ça. إنما العلم بالتعلم والتعلم يكون الهيريتاج كون على سو دي بروفيت كي فيان ا ترافير لي سافون اي انا دي مسلمون كي كرو سا اي دي مسلمون كي كرو سا اي تو دي فوالا سي تو كونسونتر تو دون تو تي مي دون ان شامبر نوار اي تو كونسونتر يعني لا سيونس ان بو با ديسوندر انسي سي بو سا كي فو كومبروندر سي كو لا سيونس اي لي موين داكيريج سيت سيونس اي بار لي شومان داكيزيون سي سا كي ديفيرونسي اوسي بوكو لي سو كي اون ديفيي دو دروا شومان سو كي بلان كوم ديمونستراسيون les rêves ou qui disent que vous, Al-Sunna, ceux qui étudient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous nous dites haddathana fulan an fulan an fulan, et moi, certains soufis qui ont dévié du droit chemin, ils disent haddathani qalbi an rabbi. Vous suivez ceci là, c'est le hadith, hein, l'isnad, et moi, c'est direct, haddathani qalbi an rabbi. Donc il a trouvé un raccourci terrible. Et c'est des gens qui sont dangereux. C'est très dangereux. Ça, ça touche à la religion. Ça change la religion. Ça peut changer. Puisque c'est fini. T'as plus de... C'est grave. Et ça, ça existe. Hein. C'est des choses qui sont existent et qui font ce qui définissent. Il y en a ceux qui exagèrent dans la définition des awliya et qui ont des pouvoirs d'acquérir la science et de voir des choses que les autres ne voient pas parce qu'ils sont dans un état. Leur âme est arrivée à un état où il peut... Ça, il peut acquérir une science sans avoir besoin des moyens que la société nous a cités dans le hadith, innama al-ilmu bita'allum, que l'Azza wa Jalla cite dans le Coran. Et cette science, pour l'acquérir, il faudrait le temps, il faudrait utiliser les dispositions que l'Azza wa Jalla a fait en nous pour qu'on puisse l'acquérir. Et Ibn al-Qayyim continue en citant aussi. أول إن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه. C'est parmi les premiers versets. Le premier verset, on devrait croire a priori, ou on devrait penser que le premier verset qui descend dans l'Azza wa Jalla sur le prophète, c'est de lui dire voilà, crois. Mais c'était pas ça, crois. C'était Iqra. C'est un peu étrange, hein, ça attire l'attention sur quoi? Sur l'importance de la science. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas, il savait lire, il savait écrire. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Iqra, lis. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa l'insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Il cite les outils de la science, l'ordre de lire et les outils de la science. Ça montre quoi? Ça montre la position, le rang dans lequel est la science dans notre religion. C'est quelque chose d'important. Hein? Le fait d'acquérir cette science. Et le fait de prendre bien sûr la science, la science qui nous vient d'Allah Azza wa Jal, la science qui est liée à la religion, la science qui nous vient par travers la révélation. Et ça c'est important, c'est dans cette science qu'on trouve notre salut, le chemin qu'on a à suivre, le bonheur qu'on a trouvé sur terre et dans l'au-delà. Et celui qui passe à côté de cela, qui ne profite pas durant sa vie de ce qu'Allah Azza wa Jal a envoyé comme message à travers le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment gaspillé une chance qu'il ne pourra pas récupérer. Il a gaspillé une grande chance, yani, dans sa vie. Et aussi, Allah Azza wa Jal, il a cité que comme quoi la science, c'est un sultan. Qala ibn Abbas radiallahu anhuma, kullu sultan in fil Qur'an fa huwa hujja. Sultan, la traduction, c'est le roi. Non? C'est quoi? La traduction, on se tourne automatiquement. Hein? Sultan, c'est quoi le nom? Ibn al-Qayyim, yani, bon, j'ai commencé ce projet d'essayer de. Mais c'est pas aussi simple, yani, la traduction. Donc, Sultan, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Hein, comme le roi, oui. Mais ça, c'est un roi. L'ilm, c'est un roi dans le domaine de. de contrer les shubuhat, de contrer l'ignorance. C'est-à-dire que celui qui a une science, qui maîtrise la science, c'est un roi sans trône. Yani sans qu'il ait le... Mais c'est un roi, parce qu'il a une science. Il est obligé, tous ceux qui sont autour de lui, ils sont obligés de respecter la science qu'il porte. Que ce soit dans le dunya, et surtout quand il s'agit de la religion. Si quelqu'un il a une science donnée, professeur en médecine, on ne va pas se comporter avec lui comme on se comporte avec d'autres. Attention, celui-là, c'est-à-dire, il a, la science, c'est-à-dire, là, elle a un pouvoir. Et la science de la religion, c'est la science qui est au-dessus de toutes les sciences et qui a le pouvoir le plus fort. Ibn Qayyim, il dit, bel sultan ou l'ilmi, a'damu min sultan iliyat. C'est ça, la royauté qu'on a avec la science est plus forte que la royauté qu'on a par la force physique ou par la force matérielle. C'est ça. وَلِهَذَا يَنْقَادُ النَّاسُ لِلْحُجَّةِ مَا لَا يَنْقَادُونَ لِلْيَدِ. Il dit, les gens, ils suivent la vérité plus que le fait de suivre celui qui essaie de les faire plier par la force. Hein? L'hujjah est plus forte que le fer. Et le feu. Hein, les gens, tu peux avoir une nation, tu peux la faire plier pour qu'elle suive quelque chose par la force du fer et du feu. Et le fait est tel que le fait que les gens y suivent, la vérité, c'est plus fort. Son impact sur les gens, il est plus fort que l'impact de la force qui est matérielle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Ce que Ibn Qayyim il a dit. Ce que je suis en train de traduire. فَإِنِ الْحُجَّةَ تَمْقَدُ لَهَا الْقُلُوبُ. Ah, la vérité, c'est les cœurs qui la suivent. Tu n'as pas besoin. Tu dis une vérité, ça ne peut pas être contre. Même s'il est contre, il te montre qu'il est contre, mais il voit que c'est une vérité. Donc elle l'influe, même s'il est contre. Parce que c'est la vérité. وَأَمَّا الْيَدْ فَإِنَّمَا يَنْقَدُ لَهَا الْبَدَلُ. Il dit, mais la force matérielle, bon, tu suis parce qu'il ne te laisse pas le choix, mais à partir du moment où tu as le choix, tu. Voilà. Tu ne suis plus. قَالَ فَالْحُجَّةَ تَأْسِرُ الْقَلْبُ وَتَقُودُهُ. Hein, le Coran, la preuve, l'ilm, il a un impact sur les cœurs. Et elle a servi le cœur. Le cœur, il est obligé de la suivre. Et ça donne l'aïza pour celui qui a la science, et l'inverse pour celui qui ne l'a pas. Même si pareil, وَإِنْ أَظْهَرَ الْعِنَادَ وَالْمُكَابَرَ فَقَلْبُهُ خَادِعٌ لَهَا دَلِيلٌ مَقْهُرٌ تَحْتَ سُلْطَانِهَا. C'est le pouvoir de la vérité, à même celui qui est contre et qui a peut-être un pouvoir matériel contre, comme a fait Pharaon contre Moussa, etc. Mais la réalité est telle que la vraie force, elle était avec celui qui était plus fort, c'était Moussa, parce qu'il avait la vérité. Il avait la touche avec lui, mais c'est lui qui avait la vérité. فَالْحُجَّةُ نَصِرَةُ نَفْسَهَا ظَاهِرَةٌ عَلَى الْبَاطِلِ قَاهِرَةٌ لَهُ. Donc, Ibn Qayyim, il a fini de citer tout ce qu'il a, les versets qui montrent l'importance de la science. Dans tout le cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a essayé de citer, bon, c'est vrai qu'on s'est un petit peu éparpillé sur certains points. Et là, il passe au fait de citer les hadiths. Le premier hadith qu'il cite, ma fi sahihayn. Sahihayn, c'est Bukhari et son élève musulman. On devrait avoir ces livres dans toutes les maisons des musulmans. Avant d'avoir la télé, on a Sahih Bukhari, Sahih Muslim. C'est la règle qu'on doit suivre, qu'on suit. Comme ça, la nation, Masharat Kun, porte. C'est un des signes. Signe extérieur. Il y en a qui aiment bien les signes extérieurs qui montrent la bonne santé de cette nation. J'ai vu des gens qui se disaient intellectuels ou des gens qui disent Talib al-Ilm, etc. Ils ramènent un hadith, il me dit le hadith, Moussa. Lorsqu'il a frappé le Malek, c'est ça. Quand il est venu, il a pas su que c'était l'ange qui venait pour l'ange de la mort. Il a pensé que c'était quelqu'un qui s'introduisait chez lui. Donc il me dit, ce hadith, c'est ce qui est... Pourquoi... Il est bizarre, il me dit. Je dis, comment ça, il est bizarre? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est comment tu dis, c'est bizarre. Normalement, Yani Müslüman sen de böyle konetli hadid-i Bukhari Müslim. Sadi rapor Kur'an, Seyyid Bukhari Müslim. Et normalement la curiosité qu'on a qui est due au fait qu'on s'intéresse à notre religion fait de nous des gens qui devraient se tourner vers Sahih Bukhari et Sahih Muslim. C'est ça. Il y en a, ils n'ont jamais ouvert ces livres-là. Ils parlent dans la religion. Et ils parlent de dire, mais il n'a jamais ouvert Sahih Bukhari. Il ne connaît même pas ce que tu lui dis quoi, Sahih Bukhari. C'est quoi le premier hadith? Il ne sait même pas. Ajib yani hal muslimi. Alors que c'est les livres de base. Normalement, on doit connaître ces hadiths. Sahih Bukhari. Et ça, c'est les gens qui se prennent pour des intellectuels et qui sont. Bon, ils sont gentils. Ils ne sont pas gentils. Mais bon, le domaine ta'din, c'est comme le domaine ta'dinia. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de faire une opération chirurgicale, ce n'est pas médecin. Ce n'est pas chirurgien même. Pas seulement médecin, spécialisé. Et là, les gens, ils prennent des responsabilités dans des mosquées ou des responsabilités par rapport à la nation alors qu'ils n'ont pas les bagages, le bagage minimum. Tu maîtrises le Coran, tu maîtrises la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une communauté musulmane qui en a besoin. Tu propages quoi dans le din si tu ne connais pas? Si on ne connaît pas les livres de base de notre religion, le Coran, il sait, il est là, il écoute, bon, tu lui poses la question, c'est quoi ça veut dire Samad? Hein, c'est le verset qu'on utilise le plus. Il ne sait pas. Et le fait qu'il ne sait pas, ça ne le dérange pas. Oui, il est tout le hiatou, il reste 20 ans, 30 ans, 40 ans, ouais. Wallahu ahad, Allahu samad. D'accord, c'est quoi le samad? C'est bon. C'est-à-dire qu'on arrive à des points qui devraient susciter en nous cette incuriosité. On va prendre un livre, on pose la question, on en est même. On a un chef, des fois il dit, oui, posez des questions. On ne pose pas de questions, c'est comme si, mashallah, non. Là où tu ne sais pas. Si tu ne peux pas lire, tu poses des questions. Mais tu ne connais pas la sourate, la ikhlas. Tu lis, tu ne la connais pas et ça ne te fait pas de mal. Et après, tu parles de muslimi, l'Irak, la mer américaine. Mais tu ne sais même pas c'est quoi ça même. Pourquoi tu parles de sujets qui te dépassent complètement? Trop la géopolitique. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui n'avancent pas à parler des choses, des phénomènes aussi importants. Bon, l'ignorant, c'est tabiat à l'ignorant. Parce que l'ignorant, il avance. Il ne sait pas vers où il part. Il ne connaît pas les dangers qu'il y a devant lui. Donc il avance. Il ne sait pas, parce qu'il n'a pas la science qui donne la clarté et qui montre le danger dans lequel le chemin sur lequel tu dois suivre et qu'est-ce qu'il faut éviter. Les écueils qu'il faut éviter. Bon, je vous laisse le soin de ceux qui révisent, Inch'Allah. Et le Sahihain, Bukhari Muslim, un hadith, Mu'awiyah radiallahu anhu, qala sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yakulu. Man yuridi Allahu bihi khayran, يوفق يوفق الدين بارك الله فيك الحش ما شاء الله ربي ينورك وينورنا
امين
ما شاء الله ويجمع القلوب على الخير
امين
بارك الله فيك ما شاء الله محيا بيضاء ما شاء الله تتفرح ربي يوفق ان شاء الله خير دونك هنا البروفيسور صلى الله عليه وسلم يبين يدي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, c'est ça. On parle de l'irada, sifat Allah Azza wa Jalla. On essaie d'être le plus juste dans le cours qu'on fait. Hein, quand on parle du verset, quand on parle de l'aqida, il faut qu'on fasse attention aux termes qu'on utilise. Surtout dans la traduction, donc je demande aux frères des fois, si je fais une traduction qui est peut-être erronée, où il y a des termes qui sont fausses, il y en a qui ne nous fassent pas la guerre. Hein. Ou quand on cite certains compagnons, etc., des fois il y a des termes qu'on utilise qui sont peut-être mal appropriés, mais c'est le risque, c'est-à-dire c'est celui qui s'avance. Là, on est dans des routes de secours, il y a des bleds, hein, et on essaie de faire le bien comme on peut. Et donc on avance, et celui qui avance, c'est risqué. Hein. Donc je demande à certains frères, il y a une certaine clémence. S'il y a une nasiha à donner, s'il y a une erreur, il y a une qu'on fait, etc., on connaît le chemin dans lequel on a du respect envers les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon générale, ça rentre dans notre aqidah. Et on suit aqidah salaf dans ce qui est des attributs des noms d'Allah Azza wa Jal. Il se trouve que des fois, parce qu'il nécessite de s'exprimer, peut-être qu'il s'exprime mal, hein, sur un sujet, et le frère vient, il pose la question, hein, il te fait la remarque. Je l'ai dans le khir. Hein, moi, je veux dire, on essaie, le fait qu'il te veut du bien, hein, il laisse du temps, etc., pour que tu apprennes, etc., ben, essaie de lui rendre le bien par le bien. Sois pas comme quelqu'un, il y en a des. C'est un frère, dès que tu. ces comptes-ci, j'allais dire, font le rôle, comme ils disent humains, des snipers. Yani. Dès que tu il écoute tout, machin, là, dès que tu fais l'erreur, il te tire dessus. Oh, ça fait, et après, il fait des conclusions. T'as fait ça, donc, et après, il te sort complètement de... Subhanallah, l'a dit. Il faut quand même une clémence. Qu'est-ce qu'on est en train de présenter, l'Innes? Alors qu'on se dit, nous, on a mis sunna, etc., et tu vois des frères qui sont en train de faire des efforts dans le sunna. Et il faut comprendre la difficulté dans laquelle ils sont. C'est pas aussi simple. Alors, quand tu vois une mosquée qui essaie de suivre le droit chemin, sache que Shaitan il fait les efforts les plus importants. Et sache que ceux, le jeune qui est derrière et qui essaie de forcer l'écho dans la sunna là-dessus, sur elle, il y a des contraintes, je ne te dis pas. Enfin, il faudrait qu'on les aide dans ce sens-là. Mais c'est pas aussi simple. Rabbi Ufkhana wa Yakum al-Khair. Donc, celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, est-ce qu'il lui donne dunya dans le hadith? Man yurid lahu bi khairin, mada. Tu penses que Allah Azza wa Jalla hubbi al-khair, qu'est-ce que tu penses hubbi al-khair? Khairin mad lil dram, dunya, l'argent, tu vois, yani le khait had bled. Ah, non, on m'a laissé notre bled pour ce bled, yani pour. Donc, Rabbi hubbi al-khair, voilà. Moi, ce que je pense, c'est mettre les dunya. Il met les drames, il met une bonne. Ce qu'on a mené, il met les radéhia, je suis un tabou. Voilà qu'il, Rabbi Azzel, Rassoussal, Mashkal, Manu, il est là où il est khairen, il faut qu'il vous fête. Je regarde l'importance, c'est-à-dire que tout ce que l'Azogel, il a tout dunya, il peut donner. Il peut donner à celui qui l'aime, il peut lui donner tout dunya, il dit ça, ça fait rien. Yani, c'est rien pour celui qui est le moins degré le Jannah, il a 10 fois dix fois ce qui est toutes les bienfaits qu'il y a sur le terre matériel, le moins de degré, peut-être il a 10 fois plus. Yani, fait l'affaire. C'est quoi? Et pourtant, l'Azza wa Jal, celui à qui l'Azza wa Jal veut du bien, et ça c'est un bon signe pour celui qui fait les efforts fuddin, qui acquérir, qui essaie d'acquérir la bonne compréhension, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être sur le droit chemin, de suivre ce que disent les savants, de bien comprendre cela et de bien le pratiquer. Yufaqihu fuddin, faqih fuddin, ça c'est quelque chose d'important. Faqiha, c'est quoi la bonne traduction du terme faqih? Compréhension. Il y a des termes en arabe, c'est difficile de trouver leur équivalent en français. Parce qu'entre faqaha, faquha ou faqiha, il y a 3 sens différents. Lorsqu'on revient au hadith dans Sahih al-Bukhari, la référence, Fath al-Bari, l'explication, la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, il y a Fath al-Bari, on revient aux sources, on est tranquille. Quand on revient à l'explication des savants, yuqalu faquha bidham, ida sara al-fiqhu lahu sajiyya. Faqoua, Foulen, c'est-à-dire que le fiqh est devenu une de ses caractéristiques. Sefa, fait, sajiya. Ou faqaha, ida sabaka ghayrahu, il est le fahm. C'est une question, c'est le premier qui arrive à la comprendre. Faqaha. Ou bil kasr, ida fahim. Faqaha, c'est-à-dire il a compris. Donc, le sens compréhension, dans ce sens, juste avec le fiqh, le dhamma ou le kasra, tu as 3 sens différents. C'est pour ça que c'est simple, yani, c'est bien d'apprendre la langue arabe dans sa source. Donc ça montre l'importance. هذا يبين يعني أهمية الفقه في الدين. يقول ابن القيم وهذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يلد به خير. ربي عز وجل لما يفقهش في الدين celui qui ne donne pas cette science de la religion, c'est que il n'est pas à la hauteur du fait que l'Azza wa Jalla ne lui veut pas du bien parce qu'il ne fait pas l'effort qu'il faut. Allah Azza wa Jal, sifat ta'u taba'a li kamalihi, sifat kamal. Et donc, s'il veut du bien à un tel et pas du bien à un autre, c'est que celui-là il le mérite et celui-là il le mérite pas. Et donc, si on le mérite, c'est dans le sens de qu'on fasse l'effort nécessaire. L'ijtihad fi din rabbi, iftahlu abwab al-ilm. Celui qui fait l'ijtihad dans le din, Allah Azza wa Jal lui ouvre les portes. Celui qui veut l'effort minimum, Rabbi Azza wa Jal, il le laisse dans son minimum. كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. نعم. ربي يجعلنا ممن يدخلون في معنى هذا الحديث. لا الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Que Allah Azza wa Jalla fasse que ce rassemblement il soit dans le sens de ce hadith où le Rasoul Sallam il a dit comment on le traduit j'ai pas bien saisi le hadith, oui, c'est à dire que tous ceux qui se regroupent dans la mosquée pour apprendre le din, Allah Azza wa Jalla fait descendre la quiétude et il les fait entourer par Rahma, c'est ça, la miséricorde, et les anges yani les entourent, c'est ça. Et Allah Azza wa Jalla il les cite. Pourquoi Allah Azza wa Jalla il les cite? Parce que lorsqu'il a un des sens yani dans ce hadith, lorsqu'il a créé Adam, les malaïka ils ont dit atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Et Allah Azza wa Jalla, chaque fois que le musulmin se regroupe pour apprendre le din, Allah Azza wa Jalla dit qu'il nous chauffe à ibadi. C'est cela, Adouma les kultum, c'est-à-dire que ce que vous avez dit n'était pas vrai. Regardez, ibadi, ils sont en train de se regrouper dans la mosquée, et ils sont en train d'apprendre le din. Et donc, ça montre, dans l'Azza wa Jalla, n'ajalana. من كلنا من أولئك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.